Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Une rentrée masquée dès aujourd'hui dans les écoles, les collèges et les lycées, tout comme en entreprise, masque systématique et gel pour éviter de créer de nouveaux foyers épidémiques. Nous ferons le point dès le début de ce journal sur le tout nouveau protocole sanitaire publié hier soir par le ministère du Travail.
Mais il est assorti d'assouplissements, notamment pour ceux qui font des efforts physiques intenses en atelier, un casse-tête pour certains employeurs, vous l'entendrez.
Casse-tête aussi au collège et au lycée, quand avec les jeux d'options, les élèves se mélangent.
Et puis à la une encore, Emmanuel Macron est arrivé à Beyrouth.
Le président français appelle à mettre en place au plus vite un gouvernement de mission et ce, quelques heures après la désignation d'un nouveau Premier ministre dans ce pays, englué dans une profonde crise politique et économique. La question du jour, Guillaume ?
Eh bien, dans une dizaine de minutes, Catherine, un plan cérébro d'Elon Musk, faut-il s'attendre à la révolution annoncée ? Je poserai la question à un neuroscientifique, François Berger.
La règle de base est simple, le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et partagé dès aujourd'hui, sauf dans les bureaux individuels. Mais le nouveau protocole sanitaire qui a été publié hier soir par le ministère du Travail consent à quelques assouplissements. En open space, les salariés peuvent retirer temporairement leur masque, histoire de souffler un peu. Et là, ça se complique car les conditions diffèrent selon les départements et leur couleur épidémiologique. En zone verte, l'espace de travail doit être bien ventilé avec des écrans de protection entre chaque bureau, des visières à disposition et un référent Covid. Conditions plus strictes en zone rouge, avec le retour notamment de la règle de 4 mètres carrés par salarié. Il ne sera donc pas si facile que cela d'enlever son masque. Les entreprises ont-elles d'ailleurs l'obligation d'en fournir ? Élément de réponse avec Catherine Pétillon.
Les employeurs sont responsables de la sécurité et de la protection de leurs salariés. Cela vaut en toutes circonstances et cela prend une autre dimension en temps d'épidémie. Désormais, en entreprise, la mise en place des mesures barrières est donc de mise. Lavage des surfaces et des mains, des objets de travail, aération des locaux et gestion de la circulation des personnes, et bien sûr, les masques. Au travail, ils doivent désormais être portés dans les espaces clos partagés, à quelques exceptions près. Fournir un masque est-il une obligation incombant aux employeurs ? Oui, répond le ministère du Travail. C'est en tout cas l'interprétation qu'il fait de l'obligation de protection telle qu'elle existe au sens large. Dans le cas particulier du coronavirus, l'exécutif n'a pas spécifié la réglementation. Il préfère, dit-il, la pédagogie. Pourtant, cette interprétation pourrait ne pas aller de soi en cas de contentieux, alerte certains inspecteurs du travail. Il rappelle par exemple que les masques grand public, préconisés en entreprise, ne sont pas des équipements de sécurité individuels tels que le définit la réglementation. Ce n'est le cas que des masques du type FFP. Ces derniers sont déjà obligatoires dans certaines professions. L'épidémie n'élargit l'obligation qu'à quelques situations professionnelles, celles des travailleurs exposés aux risques épidémiologiques du fait de leur activité, comme par exemple les soignants ou les pompiers, par opposition à quelqu'un qui pourrait être contaminé par son voisin de bureau ou en allant à la cantine. Dans le détail, l'écart entre les incitations des autorités et les possibilités de sanctions ouvre donc une voie possible au contentieux. Mais dans un contexte de crise, l'exécutif en appelle à la responsabilité des employeurs pour suivre les recommandations sanitaires.
Et les entreprises qui ont découvert ce nouveau protocole il y a quelques heures seulement auront une semaine pour s'adapter. Mais les règles sont déjà dures à suivre dans ce garage de Boulogne en région parisienne où s'est rendue Mathilde Dehimi hier.
Dernier effort de la journée pour Hugo, le mécano qui range les motos, avant de retirer enfin son masque.
J'ai chaud là, j'en peux plus.
Le nouveau protocole permet de remplacer dans les ateliers le masque par une visière.
Je suis en train de travailler sur un scooter et il faut que je regarde, la visière ça me prend plus de place, ça sera peut-être plus compliqué. Après je ne sais pas, il faut que j'essaye. Il faut peut-être avoir une visière adaptée à ça, qui ne soit pas trop grande quoi. Qu'on puisse bien regarder sur la moto et tout ça.
Un assouplissement qui fait sens pour Johan, le gérant.
On bouge beaucoup des véhicules, on force beaucoup, c'est assez physique. Du coup, on en bave quoi. Le masque, ça nous empêche de respirer correctement. C'est sûr que la visière, ça nous aiderait mieux. Ça nous libérerait même.
Mais l'abandon du masque se fait sur critères. Une bonne aération d'abord, compliquée dans le petit atelier.
J'ai pas les moyens financiers pour installer une aération correcte. Donc j'ouvre la porte et j'ouvre la fenêtre, ce qui fait courant d'air.
Il faut aussi une bonne distance entre collègues et là aussi ça coince.
Je ne peux pas avoir un 400 m² pour avoir les distances nécessaires pour travailler avec mon collègue. On est obligé de se croiser. On va chercher les pièces à droite, à gauche. Ah bah non, mais c'est sûr que je ne peux pas le faire. C'est en l'heure.
Des critères difficiles à respecter à la lettre. Johan et Hugo pensent tester la visière, à condition, disent-ils, de ne pas être verbalisés.
Pas de visière, mais des masques obligatoires pour les professeurs dès la maternelle et pour les élèves dès l'âge de 11 ans. Ce sont près de 12 400 000 élèves qui font leur rentrée à partir d'aujourd'hui dans les écoles, collèges et lycées. Une rentrée scolaire dans un contexte sanitaire inédit, mais face au Covid, nous sommes prêts, assure le ministre de l'Éducation nationale. Selon Jean-Michel Blanquer, le protocole est en vigueur et strict, complet. Pas de quoi rassurer les enseignants, notamment dans les collèges et les lycées où le brassage des élèves est plus important qu'au primaire, en fonction des cours et des jeux d'options à Kim Kasmi.
Que ce soit au collège avec les dédoublements, comme en langue vivante, ou au lycée avec les spécialités liées au nouveau bac, le brassage des élèves est incontournable, ce qui risque d'augmenter les contaminations. Ce qui inquiète les enseignants, pour Benjamin Marolle, professeur d'histoire-géographie dans un collège de Montreuil en Seine-Saint-Denis, il faut donc plus de moyens.
Au niveau du collège, le brassage il a lieu dans les cours de langue. Donc typiquement, si on a un cours d'anglais dans lequel deux classes sont mélangées, si on évite le brassage, ça veut dire qu'on mélange pas les deux classes. Si on mélange pas les deux classes, ça veut dire qu'il faut faire deux cours séparés, donc évidemment allouer les heures nécessaires pour pouvoir faire cet enseignement séparé. De toute façon, il suffit que le brassage ait eu lieu à un moment dans un cours pour que derrière, les conséquences soient néfastes pour l'ensemble de la communauté scolaire.
Quant au protocole sanitaire du ministère, il indique que ce sont localement les préfets qui devront décider de l'interdiction du brassage. En quel cas, les chefs d'établissement n'auront pas l'autre choix que de repasser aux cours à distance, notamment au lycée. Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN.
Autant pour les enseignements généraux, on est autour du groupe classe et on peut du coup isoler les cas contacts. Si on a un doute, le groupe est réduit à 30, 32 ou 35 souvent dans la plupart des lycées. Si on est sur de la spécialité, c'est souvent des brassages pratiquement sur l'équivalent d'un niveau. Moi, je vois ici, c'est 450 élèves de première ou de terminale qui se mélangent par niveau. Donc forcément, ça limite les choses.
Enfin, même si le ministère a prévu des centaines d'heures de programmes en ligne, pendant le confinement, seulement 15% des enseignants ont utilisé les plateformes numériques comme Ma Classe à la maison.
Il n'y a pas que les petits Français qui reprennent à partir d'aujourd'hui le chemin de l'école, les Belges aussi, tout comme les Russes et les Ukrainiens. En Espagne, où la rentrée s'échelonnera entre le 4 et le 15 septembre selon les régions, c'est dès l'âge de 6 ans que les enfants devront porter le masque à l'école, et ce, à tout moment. L'Espagne a enregistré depuis vendredi plus de 23 000 nouveaux cas de Covid-19. C'est un record dans l'Union européenne, mais ce taux est en légère baisse par rapport au pic atteint la semaine précédente dans le pays. Une rentrée scolaire, là aussi, attire. Typique, suivi à Madrid par Marie-Hélène Ballestero.
Plus que trois jours avant la rentrée scolaire qui va s'effectuer en Espagne de façon échelonnée à partir de vendredi prochain. Du côté de l'administration, on se veut rassurant. La ministre de l'Éducation, Isabel Celaá, mise sur une rentrée présentielle et sûre, mais les familles sont inquiètes. À 14 ans, Paula fait son entrée en troisième. Elle n'est pas rassurée.
Je suis un peu nerveuse, tout s'est fait à la va-vite. Je ne sais pas quels vont être mes horaires, quel jour je vais aller en cours, je ne sais rien et ça m'angoisse. En plus, j'ai peur qu'il y ait des nouveaux cas de contamination. Je suis un peu parano. J'ai envie de retourner en cours, mais pas dans ces conditions.
Depuis des semaines, de nombreux parents réclament partout en Espagne une rentrée sûre et dénoncent le manque d'informations et l'improvisation des pouvoirs publics. Isabelle est mère de deux enfants, un lycéen et un étudiant en fac. Elle est en colère.
On se sent vraiment paumé, sans information et sans savoir ce qui va se passer. Je comprends que les établissements scolaires soient les premiers à être perdus, mais si vraiment il fallait prendre des décisions, ils auraient dû le faire longtemps à l'avance. Je crois que le premier trimestre va être assez désastreux.
Les familles ne sont pas convaincues et les enseignants non plus, à l'image de Marta, professeure d'anglais dans un collège public à Madrid.
Cette rentrée scolaire est assez incertaine et préoccupante. Une très grande confusion règne en ce moment. On a le sentiment que les élèves vont faire leur rentrée le premier jour, mais rapidement, ils vont devoir revenir à la maison. C'est ce qui s'est déjà produit dans de nombreux pays.
Incertitude, peur, colère et scepticisme, la rentrée scolaire s'annonce chaotique en Espagne, tandis que le Covid-19 continue de gagner du terrain.
Marie-Hélène Ballestero à Madrid pour France Culture. Le Pérou est désormais le pays détenant le triste record mondial de mortalité due au coronavirus avec 87 décès pour 100 000 habitants. Au Brésil, le célèbre chef indigène, le cacique Raoni, qui a parcouru le monde ces 30 dernières années avec ses coiffes à plumes et son plateau labial pour dénoncer la déforestation en Amazonie. Ce cacique Raoni est désormais infecté par le coronavirus à l'âge de 90 ans. La déforestation encore et le rôle des banques prédatrices pour la planète et les forêts tropicales. C'est un rapport accablant que l'on vous propose de découvrir en avant-première dans le journal de 7h30 sur France Culture.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Comme il l'a fait il y a 3 semaines, Emmanuel Macron vient mettre les responsables libanais devant leurs responsabilités.
En arrivant à Beyrouth hier soir, le président français a évoqué sans prendre de gants les dossiers qui fâchent au moment où la situation politique commence à se débloquer au Liban avec la désignation d'un nouveau Premier ministre. Le reportage sur place de Christian Chesneau.
La désignation en un temps record de Mustapha Habib au poste de Premier ministre semble montrer que le président français a fait bouger les lignes dans le sérail libanais. De retour à Beyrouth, Emmanuel Macron entend enfoncer le clou.
L'objectif de cette visite est évidemment de faire un point d'étape sur la situation politique. Ma position est toujours la même, c'est celle de l'exigence sans ingérence. J'ai vu qu'un processus s'était enclenché ces dernières heures, qui a permis de faire émerger une figure en tant que Premier ministre. Il ne m'appartient aucunement ni de l'approuver ni de l'adouber, c'est la souveraineté libanaise qui est ici en jeu. Mais de m'assurer que c'est bien un gouvernement de mission qui sera formé au plus vite pour mettre en œuvre les réformes que nous connaissons au service des Libanaises et des Libanais.
Pour ce gouvernement de mission, le président français a des idées bien arrêtées. Il n'y a plus de place pour les fauner à la tête des ministères, indique-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire des ministères marionnettes qui pompent les ressources financières de leur administration au profit de leur leader politique. Deux ministères sont particulièrement dans le collimateur d'Emmanuel Macron, celui de l'énergie et celui des télécommunications, véritable vache à lait des partis politiques, selon l'expression d'un diplomate du Quai d'Orsay.
Christian Chesneau à Beyrouth pour France Culture. Beyrouth, ville meurtrie, peut-elle se relever de l'explosion qui a ravagé son port il y a un mois, jour pour jour? C'est le reportage de la rédaction à suivre à 7h25. Aux États-Unis, Donald Trump est attendu ce soir à Kenosha, dans le Wisconsin, cette ville qui la semaine dernière a connu plusieurs nuits de manifestations et d'émeutes après la bavure policière sur Jacob Blake, ce noir américain qui a reçu 7 balles dans le dos. 3 jours plus tard, un adolescent armé d'un fusil automatique tué 2 manifestants Black Lives Matter. Le président américain se rend donc sur place aujourd'hui, à quasiment 2 mois de la présidentielle. Son rival démocrate a accusé hier Donald Trump d'attiser les violences en marge des manifestations contre le racisme. Joe Biden.
Il pense peut-être que déblatérer les mots, la loi et l'ordre le rend fort, mais son échec à appeler ses partisans à arrêter d'agir comme une milice armée dans le pays vous montre à quel point il est faible. Est-ce que quelqu'un pense vraiment qu'il y aura moins de violence en Amérique si Donald Trump est réélu ? Donald Trump a été un président toxique pour notre nation pendant 4 ans. Il a mis du poison dans la façon dont nous nous parlons les uns les autres, du poison dans la manière dont on se traite, du poison dans les valeurs que cette nation a toujours partagées, du poison dans notre démocratie. Maintenant, dans presque 60 jours, il va falloir prendre une décision.
La réponse de Donald Trump à Joe Biden n'a pas tardé. Joe Biden est du côté des émeutiers de la gauche radicale de l'anarchie, a déclaré 3 heures plus tard le locataire de la Maison Blanche. Le temps de ce mardi 1er septembre, encore un peu chargé ce matin avec des risques d'averses, notamment sur l'est de l'Hexagone. Les températures seront comprises au meilleur de la journée, entre 18 et 25 degrés du nord au sud, jusqu'à 29 même près de la Méditerranée.